Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et Jason Gouzy, notre chef du jour en cuisine pour le point cuisson de 20h. En fait, point cuisson, tout est cuit.
Pas tout à fait. Ah. On va terminer, là on vient de laquer les riz de veau. Ouais. Et on va les parsemer avec du sarrasin soufflé. Et on va terminer ça...
Il est là, le sarrasin soufflé.
Exactement. On va en mettre un peu par-dessus. Et ça va apporter du crispy,
clac,
du
croquant.
Exactement,
ça y est,
c'est ça.
Ah ben je voilà. Balance le crispy.
Parfait, exactement.
Okay. Et ça. Alors, ces petites choses adorables, là
c'est là. Toujours pareil, on a travaillé les riz de veau avec le sarrasin. Là, on a effectué comme une sorte d'Oreo.
Ah.
Voilà, bon, en salé.
D'accord.
Avec du riz de veau, une farce à base de moule. Là, on est complètement dans la Bretagne.
On est complètement dans la Bretagne.
Exactement,
avec Jason Gouzy, le chef propriétaire du restaurant étoilé Pantagruel. C'est dans le 2e arrondissement. Merci Jason, à tout à l'heure. C'est l'auteur, compositeur, interprète qui fait des jaloux à force de succès et de récompenses. En 2020, son album Grand Prix a tout raflé, disque de platine, double victoire de la musique. Et ses collègues en sont venus jusqu'à imaginer en chanson que le soir de la cérémonie, ils lui volent le trophée, le kidnappent et l'enferment dans le coffre de leur voiture.
Cette nuit-là, on a fait une fête, mais là, en studio, on a réinventé cette nuit-là et elle ne se passe pas du tout de la même façon. Quoi.
C'est-à-dire on arrive donc chez lui et puis il nous montre la statuette qu'il a volée. Et moi, je ne suis pas du tout dans le délire.
Je dis, moi, je trouve ça cool de la garder un peu pour la montrer à la famille, de faire une garde partagée.
Donc on prend un verre un peu pour... On commence à boire des coups pour un peu se décider. Il y a Ben qui boit un peu trop et puis après bon bien.
Bah oui Ben, on vous entend dire bah ouais forcément il a gagné, il a appelé son album Grand Prix et quelle conclusion vous en tirez?
Moi je lui dis que le prochain album je vais l'appeler Gros Lot. Je suis sûr de gagner aussi.
Le problème c'est que Benjamin Biolette donne le bâton pour se faire battre. Son nouvel album Sinclair est aussi réussi que le précédent et fait déjà un carton numéro 1 des ventes de la première semaine de sortie. Benjamin Biolette, ce soir notre invité. Salut Benjamin.
Bonjour.
Ravi de parler de Sinclair qu'on a adoré. Vous allez encore finir dans le coffre d'une bagnole, quoi.
Bah c'est toujours bien de finir dans une voiture pour les bonnes raisons comme ça.
Ils sont marrants les trois jaloux
ouais,
là.
Je te souhaite, ouais.
C'est vrai.
Fabien, encore malade, quand il m'a appelé, il avait l'air. J'ai cru qu'il se passait quelque chose de grave. Il me disait je voulais te parler d'un truc, mais le prends pas mal, etc. Puis en fait j'étais trouvé ça très très amusant.
Hein. Bah ouais, c'est drôle. Ça va
non,
bien.
Mais surtout que je comprends, il y a un fond de vérité. Quand on est dans ces cérémonies, on nous met en compétition les uns contre les autres. Et c'est vrai que c'est hyper désagréable de perdre. Ça m'est arrivé souvent. C'est pas, j'aurais dû en faire une chanson, quoi.
Mais ouais, ils vous ont piqué l'idée. Sinclair est à peine sorti, déjà un succès, ce qui vous fait dire « Je n'oublierai jamais septembre 2022 ». Le public est toujours au rendez-vous et ça vous bouleverse, Benjamin?
Oui, surtout que la sortie du précédent album, je l'ai un peu vécu confiné, comme tout un chacun, ou couvre-feu, je ne sais pas comment on dit.
C'est
donc,
bien,
tout était un peu là, mais tout était virtuel. Quoi.
Un peu ouaté, quoi.
Oui, par exemple, la semaine de la sortie de l'album, Sinclair, j'ai pu faire un concert où j'ai joué l'album dans l'ordre, à la cigale, tout, plein de choses comme ça, hyper agréables, hyper...
Tout de suite, l'album vit, quoi.
Oui, on se sent vraiment... On se sent jeté dans le grand bain, mais c'est une sensation qui fait peur, mais qui est agréable.
Merci de donner le change et de répondre à mes questions. Alors qu'en fait, vous ne pensez qu'à une chose, Benjamin, c'est à chanter tout à l'heure.
Depuis
sur la scène
qu'on en a parlé avant, c'est vrai que j'y pense moins, mais c'est vrai que souvent, quand on doit s'exprimer avant de chanter, c'est très compliqué, parce que dans le coin de la tête, on a quelque chose qui n'est pas complètement libéré, en fait. On se dit, est-ce que cette note, ça va aller? Ou est-ce que c'est des trucs tout bêtes, quoi? Mais c'est...
Bon, mais là, ça va mieux.
Là,
donc, promis, la prochaine fois, on commencera par chanter.
Ah, ce serait...
Vous vous cantez, enfin on chantera, oui. Moi je...
Ah non, si, on peut faire un petit...
Moi je peux plomber tout en très peu de temps.
Oui, on pourrait faire
We Are The World.
Ah,
We Are The World.
Bah, oui, tout le monde aime ça.
Tout ça dans le coffre d'une bagnole. Vous vous contentez pas de dire merci à votre public, vous dites que si vous deviez faire un bilan de ces 20 dernières années, vous voudriez baiser les pieds un par un des gens qui vous ont fait l'honneur d'acheter vos disques. On a tous acheté des disques déjà.
J'ai pas le temps après l'émission, mais on peut faire une session massage de pieds. Comme le Saint-Père, il fait
exactement.
Ça.
Exactement. Vous serez à l'Accor Arena pour la première fois le 12 décembre 2023. Mmh. Vous n'avez jamais fait l'Accor Arena?
Non, mais j'avais pas non plus... Je ne me sentais pas capable de proposer un spectacle à la hauteur de cet immense volume. Je préférais faire deux zéniths, par exemple, ce qui est un peu équivalent. Mais
il y aura un hélicoptère.
Non, non. Si, il va exploser. Non, mais en plus, c'est peut-être l'occasion de faire deux concerts en un. J'aimerais bien faire quelque chose de très dépouillé acoustiquement dans ce volume-là. Ça me plairait beaucoup.
Voilà. Non, parce que je me disais qu'il va falloir baiser quand même 20 000 paires de pieds à l'accord de l'Arena.
Oh, écoutez, j'ai vu pire.
On va longuement parler de cet album, mais là, pour vous détendre... Oui, je te remercie, Pierre, pour ton soutien. On va longuement parler de cet album. Ça s'appelle un angle. Et puis, ça détend tout le monde. Comme ça, vous ne pensez pas à faire des réponses intelligentes, comme les questions sont connes. Ça passe tranquille.
C'est le problème, c'est que même quand la question est conne, on veut toujours faire un truc intelligent. Mais là, je n'ai pas trouvé.
Voilà. Non. Bon, j'espère qu'ils seront plus malins que moi. C'est l'heure des infos express de C'est à vous. Attends, allez-y les gars, je vous attends en tournant. Mathieu.
Alors aux États-Unis, je vais vous parler d'un homme libéré de prison grâce à un podcast. C'est la force de la radio, il s'appelle Adnan Syed, je ne suis pas sûr de la prononciation. Il vient de passer 23 ans derrière les barreaux, condamné à la perpétuité pour le meurtre par strangulation de sa petite amie. Il avait 17 ans au moment de sa condamnation et ça ressemble à beaucoup d'erreurs judiciaires comme on en raconte souvent en provenance des US. Mais la résolution cette fois tient à une contre-enquête minutieuse de journalistes d'un podcast qui s'appelle Serial, dont la première saison a consacré 12 épisodes rien qu'à cette affaire. Ce sont les journalistes en fait qui ont rouvert le dossier, pointé les manquements de l'enquête initiale et permis lundi à un juge d'annuler sa condamnation.
Not yet declaring Adnan Syed is innocent, but we are declaring that in the interest of fairness and justice, he is entitled to a new trial.
This family is interested in the pursuit of justice. They want to know more than anybody who it was that killed Heyman Lee.
Les procureurs ont 30 jours pour demander un nouveau procès. Pour l'heure, Adnan Syed, qui a toujours clamé son innocence, est assigné à résidence et équipé d'un bracelet électronique. Benjamin Biolay, je crois savoir, on m'a soufflé que vous êtes passionné de faits divers, de la chronique judiciaire.
Ouais, j'aime bien quand même la criminologie et c'est vrai, la chronique judiciaire aussi. Ouais.
Et on nous a soufflé que vous avez dû vous endormir à l'écoute de notre confrère Fabrice Drouel, présentateur d'affaires...
Mais pas parce que par lassitude, au contraire, le soir, quand je ne sais pas écouter, souvent je mets les affaires sensibles que j'ai ratées.
En podcast.
Et je trouve que Drouel a une façon de lire qui est extrêmement, à la fois, comment dire, il y a un côté un peu suranné, mais en même temps très moderne par rapport à la façon dont il le fait.
Vous n'auriez pas pu mieux lancer le petit cadeau qu'on vous a préparé.
D'accord.
J'imaginais qu'affaires sensibles s'invitaient dans votre univers, dans vos paroles, dans vos chansons. Alors j'ai choisi une chanson que j'aime, hein, évidemment, Ton héritage. Et alors si c'était dans affaires sensibles, ça donnerait quelque chose comme ça. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, alors crie, mon enfant. Voilà, ça manque un peu de romantisme, hein, mais ça donne un peu de dramaturgie. Et c'était Benjamin Biolay à la sauce affaires sensibles. Voilà, ciao.
Merci beaucoup.
On monte un duo pour le prochain album.
C'est génial.
Émilie,
ça vous arrive parfois de vous laisser aller à chanter un concert improvisé, je ne sais pas, dans un restaurant, à un
pas
hôtel
du tout.
Et bien c'est ce à quoi s'est risqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau. C'était samedi soir dans le hall d'un hôtel de Londres. Il se trouvait là pour assister aux obsèques de la reine Elisabeth II et la scène a été filmée. Vous avez tous reconnu la chanson.
Gênant.
Voilà. Ah, gênant.
Gênant, ouais, je trouve. Ouais.
Gênant, bah en tout cas, il y a beaucoup de gens
non,
qui
non, mais moi, je le trouve gênant. Il a fait des blackface, et tout. Qui fait des blackface, par exemple, quoi. Enfin, non, mais Justin Trudeau, je le trouve gênant, voilà.
Eh ben non, mais alors, pour le coup, il a été vivement critiqué.
Ah, attends.
Pour s'être laissé aller, on lui a reproché même les paroles qu'il a fredonnées de cette chanson.
Ah oui.
Donc, easy come, easy go, que ça veut dire un peu, si je traduis en français, c'est la vie. Certains y ont vu une mauvaise interprétation en rapport au deuil de la reine.
Il ne faut pas s'en faire, ouais, non, mais c'est le même genre, quoi. C'est,
ouais. Oui, ben voilà, bah, ça a mis en colère plein de gens. Le Premier ministre a même dû réagir officiellement par une déclaration en disant qu'il avait dû participer aussi à diverses activités pour bien rendre hommage À la reine.
D'accord.
Je ne pensais pas que ça vous
encore, encore raté, quoi.
Oui, il n'y a pas de rédemption de Justin Trudeau ce soir autour de la table de C'est à vous, quoi. Donc vous gardez.
Non, mais même dans la presse canadienne, on le critique vraiment et on dit que justement le charme n'opère plus.
Le premier ministre du Canada, qui est quand même un membre éminent du Commonwealth, c'est ce machin, il y a la reine sur les billets. Oui, non, mais c'est pas. On ne peut pas faire ça le soir même dans un. Je trouve ça. Enfin, ils ont des responsabilités publiques, ces gens, quoi. Nous-mêmes, on ne le fait pas, quoi, ce genre de truc, quoi. Donc, voilà.
Encore moins quand on est Premier ministre du Canada. Tout de suite, c'est l'œil de pierre consacré à David Bowie.
Alors que tout soit bien clair, je suis de la génération d'avant Bowie, c'est vous dire mon âge. Mais je veux vous parler, quelle que soit votre génération, du documentaire qui est sorti aujourd'hui en salle, intitulé Moon Age Daydream, et qui illustre et transcende la vie de Bowie. Le réalisateur Brett Morgan a choisi les images de son film parmi 5 millions, je dis bien 5 millions d'archives mises à sa disposition par l'entourage de Bowie. Il faut le voir en salle, sur un grand écran. Vu la qualité des images et l'extraordinaire travail du son, il faut le voir en IMAX et en Dolby, sinon c'est rikiki.
Ever since I was 16, I was determined we'd have the greatest adventure that any one person could ever have.
I'm an alligator. I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roll and bitch for you.
And how about the shoes? Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes?
They're shoes, silly.
C'est génial, sa réponse est fantastique.
En fait, Brett Morgan a réussi avec Bowie lui-même, ses images et ses styles. Il a réussi en vrai ce que Baz Luhrmann a recréé pour Elvis. Mais comme a dit Brett à Myrtille Serre, il n'avait pas l'intention de raconter classiquement la vie de Bowie.
Moon Age Daydream was created to be a kind of theme park ride, if you will, through David Bowie's creative journey through life. I feel like if people want to, like, learn facts about David Bowie, they can do it, like, through Wikipedia. But if you want to experience Bowie, Moon Age Daydream offers audiences something they just can't get at home or from a book. Movie theaters straight up have the best speaker system, like nobody has what an IMAX has at their house.
Bah oui, c'est bien sûr le destin d'un garçon né dans un milieu ouvrier et qui, en particulier des années 70 à 80, fait de sa vie une création artistique, avec en permanence un temps d'avance sur son temps et même sur ses fans. Grâce à lui, disait Laurent Chalumeau à sa mort, l'art et la culture n'étaient plus l'ennemi, c'était des armes, c'était le tunnel par lequel nous allions nous évader du camp. Et comme le rappelle Brett Morgan, Bowie nous apprenait à toutes et tous que toute vie peut être un geste artistique.
I don't think Bowie was interested in offering new things for his audience. I think he was looking to satiate his own creative quest and his own creative needs. And I think that's what makes him rather unique as an artist. Because most artists are too frightened of going too far away from what they're known for. And, you know, the courage that takes to risk your security and everything is really audacious and inspiring.
Bowie androgyne, Bowie bi, Bowie avec Iman, mais Bowie tellement libérateur pour les jeunes hommes incertains dans leurs désirs. Un jeune homme, un adolescent à l'époque, qui rentrant chez lui, évitait certains coins dangereux. Puis une fois à la maison, il pouvait écouter Rock'n'Roll Suicide et Bowie lui criait « Oh no love, you're not alone ». Et puis l'apaisement aussi, c'est aussi dans le document de Brett Morgan, l'apaisement à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Bowie, c'est aussi un chemin.
When things reach a point to one extreme, there will be a natural gravitation back to a point which is the antithesis of that one. So you get a musical vocabulary which is high-tech and icy. There's going to be sooner or later a swing back to, well, what is the other side of that coin?
J'ai entendu que l'autre jour, j'ai lu que vous disiez, Benjamin, que vous étiez content de revenir avec que des instruments non électroniques.
Oui, c'est agréable quand même, ouais. L'Homme-Pâle disait la même chose, faire du son sans ordi et tout, c'est quand même hyper agréable de retrouver un peu les trucs qu'on a connus au début en plus. Ouais. Et puis c'est finalement moderne.
Absolument.
Vous nous rappelez le film de...
Moonlight Daydream, c'est en salle depuis aujourd'hui, dans tous les bons cinémas à IMAX et Dolby.
Merci, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
Christelle est dehors depuis 6h30. Il faisait alors 5 degrés. Avec un petit vent qui rafraîchit, ses clients ont des envies de plats réconfortants.
Ben là, j'ai pris un rôti.
C'est fini les salades?
Oh oui.
Il fait trop froid?
Oui.
On commence à passer dans les plats, les mijotés, hein, les blanquettes, pot-au-feu, saucisse merguez, c'est fini là.
Ça y est, l'automne arrive.
À Strasbourg, la faculté a décidé de fermer ses locaux 2 semaines pour réduire ses frais de chauffage. À Lyon, les habitants d'HLM sont priés de ne pas utiliser l'ascenseur.
C'est une photo de l'ancien Premier ministre Jean Castex dans les transports qui affole un peu les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Il est, vous le voyez, tout seul, assis dans une rame de la ligne 1 du métro parisien.
Ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes dans une situation difficile avec un hiver de grogne mondial à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle.
Aujourd'hui sur notre plateau, son quotidien va être totalement changé. C'est lui que nous voyons ici sur les images de son quotidien.
L'escalade en Ukraine, Vladimir Poutine soutient l'organisation de référendums dans 4 régions séparatistes pour les annexer à la Russie.
Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies.
On voit ce cimetière d'équipements militaires et de chars russes à l'entrée d'Izium qui témoigne vraiment de l'ampleur de la défaite des forces russes.
Mahsa Amini, 22 ans. Cette jeune iranienne est en train de devenir un symbole. Arrêtée à Téhéran le 13 septembre par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile. Elle meurt 3 jours plus tard à l'hôpital après être tombée dans le coma dans les locaux de la police. Persuadée que Mahsa Amini est morte suite à des violences policières et en signe de solidarité, des dizaines de femmes iraniennes ont décidé de se couper les cheveux sur les réseaux sociaux. D'autres de s'afficher sans voile dans les rues de Téhéran. Et la colère descend dans la rue. Des manifestations en cascade, comme hier encore à Téhéran.
J'ai le cœur qui palpite. Je me sens comme si c'était la première fois que je donnais un bisou à une fille. Et c'est, ça me fait bizarre. Ça me fait du bien.
Papendia, il relance l'éducation sexuelle à l'école.
Ah, c'est génial.
C'est vrai, là.
Oh, attendez, on me dit qu'on en parle, mais tout de suite après une page de publicité.
OK.
Heureusement, il y a Papendia, Papendia.
Mais le bouillon... Eh bien, le bouillon, il sent la moule. Et moi, j'adore la moule. C'est vraiment très, 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 très bon. Le gravlax, j'adore.
Non, mais... Thierry, non. Là, vous ne pouvez pas. À votre niveau, vous ne pouvez pas. Thierry, non. Attention, namasté, tout de suite.
Et si tu fais ça... C'est trop sympa.
On a près de 10% des femmes qui disent avoir été victimes de violences conjugales pendant le premier confinement.
J'aimerais une réaction au tweet de Jean-Luc Mélenchon concernant l'affaire Adrien Quatennens. C'est qu'en interne, certains n'ont pas apprécié qu'il salue le courage d'Adrien Quatennens. Qu'en pensez-vous, vous, les députés, personnellement, de ce tweet? C'est une députée de chez vous qui a fait un communiqué pour dire qu'elle n'appréciait pas cette prise d'opposition.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur.
C'est ma réponse.
C'est évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise des violences intrafamiliales. Enfin voilà, c'est pas une outrance près, on va dire.
Deux femmes, deux autrices viennent de déposer plainte contre l'ancien présentateur du JT. Des plaintes pour un viol et des agressions sexuelles qui ne sont pas susceptibles de poursuite en raison de la prescription.
Bon, maintenant j'ai arrêté de lire les témoignages parce qu'à chaque fois je lis ma propre histoire et je la connais. C'est ce côté sériel, tout comme il y a des tueurs en série Et bah, pour moi, Patrick ça est un violeur en série, parce que tous ses actes se passent au même endroit, quasiment à la même heure, avec le même type de femme.
Il se déchausse, ferme la porte, et tout d'un coup, voilà, il est comme si on était des vieux amis. Ouais. Voilà.
Ouais, je dis béni.
En chaussettes.
Ah, en chaussettes. Ouais. Déjà, c'est pas hyper sexy. Hein.
Nouvelle accusation en direct à la télévision. Sandrine Rousseau affirme avoir reçu une ex-compagne de Julien Bayou qui accuse ce dernier de violence.
Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très déprimé, voire vraiment très mal, quoi. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal.
Julien Bayou se met en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. Le patron des Verts est accusé d'avoir brisé la santé mentale de son ex-compagne.
A-t-elle obtenu l'accord de cette femme pour que sa tentative de suicide soit rendue publique ? A-t-elle recueilli la version de Julien Bayou qui disait en juillet au Figaro qu'il était menacé de représailles après cette rupture sentimentale ? Enfin, a-t-elle incité la victime à saisir la justice ? Là, on a la réponse parce que Sandrine Rousseau nous l'a donnée alors que l'émission était terminée. Le problème, a-t-elle lancé micro coupé, c'est qu'il n'y a rien de pénal, rien de pénalement répréhensible dans cette histoire, a-t-elle dit. Autrement dit, le chef des Verts n'aurait commis aucun délit, mais dans l'esprit de Sandrine Rousseau, son comportement conjugal mérite la honte et l'opprobre.
Voilà pour le vu du jour. Un conseil d'amis, il y a un investissement à faire d'urgence alors que les jours raccourcissent et qu'on devra un peu moins chauffer nos appartements cet hiver. Achetez Sinclair, le 10e album de Benjamin Biolay, et pour seulement 16,99€, on peut avoir Les Jours Roses version canicule et s'entendre dire à l'oreille des paroles qu'on entend trop rarement dans la vraie vie. T'es unique, t'es magique, t'es un chef-d'œuvre.
Ouais, à ne plus faire quoi la vidéo sans t-shirt.
Mais il faisait chaud, non ?
Il faisait 1000 degrés, mais tout de même.
Mais vous faites monter la température avec cet album ?
Non.
Un peu, parce que vous avez envie de soleil, c'est ce que je voulais dire. Au sens figuré du terme. Ouais. Non ?
Non, si, j'avais envie de choses quand même assez chaudes, assez méditerranéennes, assez organique et évidemment de choses assez sensuelles et sexy, parce que moi je trouve que les guitares électriques, les batteries, les basses, c'est des sons sexy, quoi. Ça m'a toujours évoqué ça, donc comme je fais les musiques avant, il arrive que dans les textes je suive l'instinct et je suive l'idée que je me fais de cette musique, en fait,
avec des paroles qui sonnent comme certaines de celles de Brassens. Sans censure, sans métaphore, vous ne tournez pas autour du pot, il y a une filiation entre vous.
Bah, en tous les cas, à 7, Brassens, c'est vraiment un typique représentant de cette ville, même s'il a eu avec cette ville des relations très complexes, finalement. Mais il a un papa gascon d'origine espagnole, complètement anard, complètement athée, une maman italienne très catholique. Et il y a une biographie sur lui qui s'appelle « Le mécréant de Dieu », et ça lui va très bien, parce que dans son champ lexical, il y a un nombre de bondieuseries pas possible. Mais évidemment, toujours derrière, il y aura le petit...
Ouais, voilà. Il y a de la bondieuserie, mais il y a aussi du parler cru, quoi.
Ouais, c'est un mélange savant des deux, quoi.
Ouais. Si j'ai trahi
des... Il y a beaucoup de superstitions dans son langage et peut-être dans des choses qui ont attrait aux superstitions, quoi.
Parce qu'effectivement, si ça s'appelle Sinclair, c'est parce que c'est un
c'est lieu. Le sommet qui domine la ville de Sète, où il y a une chapelle et une grande croix blanche. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai appris que vous aviez passé une partie de votre enfance à Sète. Moi, je vous situais plutôt à Lyon et Villefranche-sur-Saône.
J'étais à Villefranche-sur-Saône et Lyon pour l'école. Mais avec ma famille, on partait, ou même justement mes cousins, on partait à chaque vacances scolaires à Sète, parce que j'y ai de la famille, en
D'accord.
fait. Une partie de ma famille est partie vivre dans le sud. Ouais.
Alors, j'ai plusieurs archives. Je vous donne le choix entre deux archives de natifs de Sète, Brassens, dont on parlait il y a un instant, ou quelqu'un qui est souvent plus associé au Sainte-Marie de la Mer, Manitas de Plata.
Volontiers.
Manitas de Plata.
Oui, parce que les gens ne le connaissent pas assez. Et si c'est la fameuse interview avec Denis Glaser où il répond
exact,
en jouant.
Il répond. Denis Glaser lui lance des mots et lui répond à la guitare. On regarde avec cet extrait.
Une grande plage de sable,
hein, comme... Les femmes et l'amour.
Manitas de Plata, immense guitariste qui n'est pas, heureusement, complètement oublié. Il reste une star pour les amateurs.
Ah ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'il est né à 100 mètres de l'endroit où est né Georges Brassens. C'est fou quoi, que ces deux types soient nés à quelques mètres l'un de l'autre. Mais c'est un immense artiste qui a fini dans une misère terrible et tout. C'est un exemple. C'est un destin assez dur. Mais cette interview est magnifique parce que très modestement, il dit, moi, vous savez, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je ne peux pas répondre à vos questions. Elle me dit, donc, on n'a qu'à jouer. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ouais.
Bon Dieu, zrie et parler cru, disait Anne-Elisabeth. Un album aussi très imprégné de théologie. Il y a Sinclair, on vient de l'évoquer, le titre de l'album, mais aussi Santa Clara, duo avec Clara Luciani, ou encore Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. C'est votre sainte préférée ?
C'est une de mes saintes préférées, oui, avec forcément Sainte Cécile, qui est la sainte patronne des musiciens.
Ouais.
Mais Sainte Rita, c'est une personne très intéressante, qui a eu une vie très mouvementée, qui a prié pour que son mari soit assassiné et tout, qui a été exaucée, qui a été quand même canonisée. C'est une femme très moderne et c'est vrai qu'elle symbolise la sainte patronne de tous les laissés pour compte, quoi. Pas seulement des prostituées ou des gens de la nuit, etc. C'est un peu... Nous, pendant le Covid, on a compris que c'était Sainte Rita, la patronne.
Mais vous avez toujours eu la foi chevillée au corps, comme on dit ?
Oui, une sorte de foi complètement... Ouais. Un peu transcendantale. Après, et puis, je trouve que nous, les musiciens, on est souvent comme ça en contact avec le surnaturel. Au moment où on compose, c'est très bizarre de composer. L'autre jour, quelqu'un me demandait comment je faisais. J'étais incapable de lui répondre, même de donner
un début de réponse.
Un indice, oui. Et donc, moi, j'ai toujours cru en plein de trucs, mais je ne suis pas pratiquant. Je suis un très mauvais sujet.
Benjamin, le hasard ou je ne sais qui a voulu que vous soyez là ce soir. Et aujourd'hui, Hubert Mounier aurait eu 60 ans. Hubert est la chic planète de l'affaire Louis Trio. Mais pour ce salut à Hubert, on a aussi envie de son chef-d'œuvre Mobilis.
Mobilis. J'ai jamais vu cette émission.
C'est vrai ?
Ouais. Cercle de minuit, tous les trois, comme ça, c'est mouvant. Parce que François, qu'on voit à la basse, à la droite de l'écran, François Loblet, est décédé aussi. Donc, ça a été quelque chose de très, très dur à vivre, tout ça.
Mais c'est fou de se dire qu'il aurait 60 ans.
Oui, mais ça marche pas, comme il n'a jamais eu 60 ans. Et qu'il faisait quand même, jusqu'à la fin de sa vie, des bonds de 200 mètres. Et qu'il était... Non, ça marche pas.
Vous regardez là, parfois, de temps en temps, le chemin parcouru, vos débuts, le premier album, c'était il y a 20 ans, Rose Kennedy. Ouais.
Non, je regarde pas trop. Ça peut être angoissant de se tourner, de regarder comme ça dans le rétro tout le temps et tout.
Je ne vous propose pas une archive de l'époque.
Ah, s'il vous plaît, non.
Bon, bah non, alors ok.
Bah voilà.
On fera des économies.
Benjamin, vous étiez jury Un certain regard au dernier festival de Cannes. Hein, je suis bien placé pour le dire. Et le cinéma est très présent dans votre musique. Votre précédent album, Grand Prix, c'était une référence au film de John Frankenheimer.
En partie, mais c'est vrai. C'est vrai.
Avec Yves Montand et Françoise Hardy. Ensuite, Palermo Hollywood, vous disiez l'avoir pensé comme un western spaghetti. On peut dire que le cinéma, c'est une vraie source d'inspiration dans la composition de vos albums. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette pochette de Sinclair, elle est presque cinématographique. Elle est complètement cinématographique.
Il y a un double clin d'œil à la Dolce Vita et à Podane, je trouve. Quoi.
Vous pensez
Podane avec l'hélicoptère.
Sergeant Pepper aussi, donc.
Oui, Sergeant Pepper avec comment s'appelle les brodequins là.
Exactement.
Donc vous pensez vos albums dès le départ peut-être avec un esprit.
Comme des films imaginaires, c'est vrai, ou des films sonores et oui, j'ai toujours essayé d'imaginer ça parce que c'est. Même si ça ne s'entend pas, même si c'est un peu indicible, c'est très intéressant d'avoir une sorte de fil conducteur et de savoir ce que serait le film. Là, ce n'est que la musique. C'est que...
on aura la chance un jour de voir un film de Benjamin Biolay.
Ça pourrait être une catastrophe, donc la chance, ça n'engage que vous, mais j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien faire un film musical, bien sûr. J'aimerais... Le mot comédie musicale, il est un peu peut-être galvaudé, mais un film vraiment musical me plairait beaucoup.
Si vous avez longtemps écrit pour les autres avant de vous lancer, c'est que vous ne supportiez pas votre voix. Ça y est, c'est réglé, ça, maintenant.
C'est que je n'avais pas décidé d'être chanteur aussi, quoi. Mais après, quand on est auteur-compositeur, on se rend très, très vite compte que pour faire connaître ses chansons, même pour envoyer à Henri Salvador, il faut bien la chanter, la chanson. Il ne peut pas la deviner, on n'envoie plus des partitions. Donc, petit à petit, ça, pourquoi ça se rapproche le moment où je vais aller chanter?
Ouais. Oui. On n'a jamais été aussi mal.
Là, vraiment, on y est, là. Ça dépend de la longueur de votre réponse.
Oui, je vais pas trop... Non, nos chanteurs, oui. Maintenant, oui.
Bon, c'est l'heure du live de Benjamin Biolay. Ah. Juste après, j'étais à ça de Zoé Bruno. Vous êtes à ça de faire le live.
OK, Zoé Bruno, j'adore. J'étais à ça.
On fait moite-moite?
Sérieux? Chaque ingrédient de cette salade vient de mon potager. Je crois que tu te rends pas compte du boulot que ça représente.
Ah bah si, je vois très bien. Hein. J'ai essayé d'en fabriquer un potager, moi. Ah, alors là, j'ai fait une radia. Hein. Carottes, navets, radis roses, radis noirs, bouleaux, plantes tomates, j'ai tout pris.
Mais bouleaux, on va pas planter des arbres. Et j'aime pas les navets.
Tu diras pas ça cet hiver quand je te ferai des bonnes petites soupes.
Arrête.
Oh, poireaux! J'ai oublié poireaux.
Qu'est-ce que vous faites? Faut pas faire ça dans les jardinières, là. Non, 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 il faut construire des baquets, sinon vous allez tuer mon figuier. Ah bah oui. Mauvaises herbes. T'es mimi, toi, tu t'en fous, hein?
Voilà, on peut rien planter, on peut rien planter.
Oh, chiant, Eduardo, non?
Mais pourquoi t'es allé le faire chez eux?
Bah, parce que chez eux, c'est comme chez moi. Donc j'ai traîné mon frère à un magasin de bricots, on a tout acheté pour fabriquer des baquets.
Oh putain, ça me saoule! J'étais bien, là, je bouquinais tranquille, je demandais rien à personne.
Allez, encore 6 rues et on y est. Mais c'est sympa de faire un truc tous les deux.
Ouais, c'est super.
De retour à la part, je me suis rendu compte que j'avais oublié la moitié de la liste.
Tu connais le principe, le concept même du week-end, hein? Moi, je dois me reposer de 6 classes d'ados hystériques qui sont incapables de jouer Stromae à la flûte.
Bah, toi qui aimes la musique sud-américaine, pourquoi tu leur fais pas flûter Manu Chao?
Voilà, j'en ai marre! Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi?
Quoi?
Le carton, c'est une brouette!
Oh, j'avais complètement oublié que j'avais acheté... Oh, bah c'est con! On aurait pu...
Zoé, tu me saoules! Putain! T'as pourri mon week-end! J'ai les crampes à plein les bras, alors que lundi, c'est initiation à la batterie! Merde! Tu m'emmerdes! Démerde-toi avec tes conneries, là! Chier! Merde!
Cédric! J'ai dû tout rapporter toute seule. Mais pas bête, je me suis servi de la brouette.
C'est marrant, toi. Hein. Quand tu veux quelque chose, bah tu l'as pas.
Comme quoi, suffit pas de le vouloir. Tu vois, là, par exemple, j'étais à ça de fabriquer un potager.
Bonsoir Alain Mabankou, ravie de vous accueillir à nouveau à la table de C'est à vous à l'occasion de ce nouveau roman Le commerce des allongés. On en parle dans un instant, mais là tout de suite c'est l'heure du live. Benjamin Biolay sur la scène de C'est à vous pour Rends l'amour, extrait de l'album Sinclair. C'est le moment.
La vie, la dignité, ma pointe sur le banc, les 3 sous de côté qui demandent tant d'efforts. Et n'oublie pas d'emporter le canapé tout confort. Ne laisse rien, le cèdre centenaire, le panorama. N'oublie rien, même si c'est pour tout mettre au débarras. Mais rends l'amour que je t'avais prêté, reprendre ses volets, mais je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour et je me jette de la falaise et je m'en vais te cueillir les fraises si tu veux m'aimer. Oh.
je m'en éteins. Emporte tout, sois sûr que tu n'oublieras rien. Délaisse-moi, n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler le cours de terre battue de feu nos échanges. Taguer, taguer le coin de rue où est passé l'ange. Mais rends l'amour que je t'avais prêté. Reprendre ses volets. Je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour. Et je me jette de la falaise. Et je m'en vais te cueillir des fraises. Si tu me m'aimes, je te baise.
Les bonnes, voilà, non, partout. Tous les bons disquaires et en concert à l'Accord Arena le 12 décembre 2023. Je vous présente Benjamin, Alain, Benjamin. Bienvenue à tous les deux à la table de C'est à vous. Jason Gouzy, chef propriétaire du restaurant Étoile et Pantagruel dans le 2e arrondissement de Paris. Que vont déguster nos invités?
Vous allez manger du riz de veau, cœur de riz de veau français, qu'on a travaillé autour de la moule pour avoir un accord terre-mer, donc des moules cuites en marinière. On a ajouté quelques petites feuilles d'oxalis pour l'acidité. Vous l'aurez en deux assiettes. On l'a travaillé dans une salade entre deux tuiles de sarrasin et le sarrasin soufflé, bien évidemment, qu'on a mis dessus pour apporter le croquant.
Merci beaucoup, Jason.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Bon, maintenant que vous avez chanté, on peut refaire l'interview.
Ouais, on peut manger des riz de veau aussi, mais on peut faire l'interview. Ouais, non, ça ira mieux, bien sûr. Ouais, ouais.
Non, tout va bien. On est ravis de vous accueillir, Alain Mabakou, parce qu'on a au moins trois bonnes raisons de vous aimer, de vous admirer.
Et merci, vous m'avez fait un cadeau exceptionnel, hein, d'écouter un des plus grands musiciens français actuels.
C'est
un bonheur.
Merci beaucoup. Ouais,
trois raisons de vous aimer et de vous admirer, Alain Mabankou, parce que vous êtes l'un de ceux, et vous n'êtes pas très nombreux, qui font rayonner dans le monde entier la littérature africaine et la langue française. Aux États-Unis où vous enseignez, en Angleterre, vous êtes juré du Booker Prize, vous figurez toujours dans la liste du Guardian des 100 meilleurs livres du 21e siècle avec Vercassé, il y a que deux autres francophones, je suis allé vérifier, Marjane Satrapi et... Et Thomas Piketty.
Ça fait vieillir, hein.
Non, parce que la liste est réactualisée chaque année.
D'accord.
Et vous êtes toujours dans les 100.
Ah ben...
Dans les 100 meilleurs. Oui. En France, évidemment, vous êtes désormais dans le Larousse, entre Maastricht et Macadam. Ouf. Et juste avant Emmanuel Macron, voilà. Mmh. Et partout ailleurs, puisque vos livres sont traduits dans une quinzaine de langues. Et si votre voix n'a jamais autant porté, si vos couleurs aujourd'hui, une oie blanche sur voilà. fond bleu... si vos couleurs... Les couleurs sont plus resplendissantes que jamais. On en trouvera les raisons dans votre nouveau roman. Cela tient simplement à la puissance de votre imaginaire. Je dois vous avouer un léger mouvement de recul quand j'ai vu que ce commerce des allongés nous ramenait une nouvelle fois dans le pointe noire de votre enfance au Congo, qui a déjà nourri la plupart de vos romans. Lecteur fidèle, je pensais que vous aviez déjà tout dit et tout raconté. Eh bien, vous avez inventé de nouveaux contes et légendes, et voilà que vous nous embarquez dans les allées du cimetière du Frère Lachaise avec ce type qui sort de sa tombe, qui assiste à ses propres funérailles, qui croise cette femme corbeau dont le précepte ou le conseil va donner un sens à sa vie et à sa mort, et que le lecteur n'oubliera pas, j'en dis pas plus, le baroque, le surnaturel, la force du conteur, la faconde et la poésie, ça fait au moins cinq bonnes raisons, non ?
Oh, je pense que le costume que vous m'avez taillé sera difficile à porter. Hein.
Non, 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 non. Vous portez très bien tous les costumes et, tous les, et toutes les couleurs.
En tout cas, merci, merci pour cette lecture. C'est un livre qui est une sorte de réconciliation que j'ai faite avec l'Afrique. Pour bien le terminer, il m'avait fallu un peu sillonner beaucoup de pays du continent africain, l'Afrique noire en particulier, et de ressentir cette oralité en moi.
Vous dédiez ce livre à votre mère et à votre père. Votre mère qui vous racontait des fables et votre père qui contredisait les versions de votre mère. Vous retranscrivez en ces fables, mais en rajoutant un peu de sel, de piment, afin de maintenir l'attention de votre lecteur.
Toujours, parce qu'à la maison, j'avais l'impression d'avoir un tribunal. Vous savez, au tribunal, il faut que ça soit contradictoire.
Oui, la défense et l'accusation. Voilà.
Donc j'avais ma mère qui était toujours en train d'accuser ou mon père qui défendait ou vice-versa. Donc la même histoire, j'avais deux versions.
Il fallait trancher.
Voilà, aujourd'hui je peux être un romancier en commençant une bonne partie de ma vie avec toutes les histoires de ma mère, puis au versant de ma vie, je commencerai les histoires de mon père, qui lui alors ne rigolait pas parce que ses histoires étaient toujours accolées à la colonisation française qu'il avait connue. Et il a travaillé 30 ans dans cet hôtel où se passe vraiment la scène centrale du roman. Il a travaillé là, c'est là qu'il ramenait les livres de littérature et que je lisais en cachette. Lui, il les ramenait pour les lire à la retraite et interdisait quiconque de les déranger parce qu'il fallait les dépoussiérer, mais ne surtout pas les ouvrir au risque de voir les personnages s'échapper des livres et changer l'histoire qui était continuée à l'intérieur. Quelle croyance!
C'est magnifique.
Voilà. Le cimetière du Frère Lachaise, oui. Mais au-delà, les rituels mortuaires du Congo-Brazzaville, mm-hmm. Vous dites que la mort est presque plus importante que la vie.
Bien sûr.
En tout cas, on la célèbre plus que les naissances et les mariages.
Oui, parce que pour nous, la vie est presque ordinaire. C'est pendant la mort qu'on va savoir quelle est la dignité de la famille, comment vous aimez la personne. Et aimer la personne ne veut pas dire pleurer, parce que si vous passez votre temps à larmoyer sur un cadavre, ce n'est pas bon pour la réputation. Il faut que vous le cajoliez, que vous mettiez la musique qu'il aimait. Mmh. C'est pour ça que la musique est liée vraiment pour nous dans les mariages, dans les enterrements. On a toujours une sorte de playlist pour chaque mort. Mmh. On sait qu'il aimait bien cette chanson. Il y en a parfois qui mouraient en Afrique, en plein cœur, vraiment, de leur quartier, à Pointe-Noire. Et sa playlist avait Nana Mouskouri et Carlos. Je préfère boire l'eau de la piscine, etc. Et au cœur de septembre, c'est pour ça, à l'intérieur, il y a un chapitre, ça c'est pour Benjamin Biolay, il y a un chapitre sur un musicien qui, oui, s'appelait, ouais. Qui s'appelait l'artiste, hein, qui s'appelait l'artiste, et qui, Luli Madeira, qui était bossu. Et donc, la réputation était qu'il était allé voir un sorcier pour avoir du succès. Et ce sorcier lui avait dit que les esprits, pour te donner du succès, devraient habiter en toi. Donc, tu choisis la partie de ton corps. Et les esprits sont allés habiter dans sa bosse. Mais quand il chantait, on avait l'impression que la belle voix transitait d'abord par la bosse et sortait avec des sonorités angéliques. Si bien que les autres orchestres amateurs, pour chanter, ils mimaient la bosse en croyant que c'était ses nervures ou ses courbures qui donnaient la belle voix. Voilà.
Le héros du roman, mmh, meurt beaucoup trop jeune. Or, au Congo-Brazzaville, oui, quelqu'un ne peut pas mourir avant 100 ans. Ça n'est pas possible. Mmh. Donc, s'il meurt avant, c'est qu'on lui a forcément jeté un sort.
Oui.
Et vous dites, on l'a mangé.
On l'a mangé parce que c'est... On explique mal une mort brutale. Pourquoi quelqu'un de 20, 25 ans, 26 ans va mourir? Donc on se dit que les mauvais esprits ont fait une certaine concertation pour voler son âme. Donc manger quelqu'un ne veut pas dire ce que nous allons faire tout à l'heure. Hein. On n'est pas 13 ici. Hein, voilà.
Non, on est moins.
Pas, voilà. Donc manger quelqu'un, c'est en quelque sorte lui retirer son esprit et puis aller le vendre quelque part ailleurs. Donc on doit demander de ce fait aux morts d'aller rechercher qui l'a mangé. C'est pour ça, pendant les déjeuners à midi, vous êtes en train de manger, tout d'un coup, quatre personnes passent dans la rue avec un cadavre. Mais ce cadavre est en train d'aller rechercher qui l'a mangé. Et c'est le cadavre qui catapulte, qui pousse les porteurs. Et parfois, il y a des embouteillages, il y a un cadavre qui est mort dans l'autre quartier, qui cherche dans ce sens, l'autre qui cherche, les cadavres s'arrêtent, se disent un petit bonjour, et puis ils continuent. Je voulais mettre plutôt de l'humour à l'intérieur pour vous montrer comment nous, on rigole plutôt de la mort, alors qu'ici, c'est quelque chose d'endimanché avec redingote.
Vous dites quand même que la sorcellerie, les superstitions, parfois, elles étouffent l'émancipation des sociétés africaines.
Oui, parfois, elles étouffent l'émancipation, c'est certaines croyances ou certaines attitudes. C'est souvent des gens qui ont dévoyé le sens des traditions africaines. Prenez l'exemple toujours dans le roman de ce personnage qui s'appelle Papa Bonheur. Il a son église à lui-même, il a ses ouailles, mais il a une affection particulière pour les enfants albinos. Donc ils sont clairs de peau, ça suscite quelque chose, donc il y a des pouvoirs, et là commencent peut-être les crimes sacrificiels. Donc moi j'ai voulu aussi dans ce livre m'attaquer à cette question des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques qui s'attaquent aux marginaux. C'est pour ça que c'est un livre vraiment des marginaux, c'est un livre de l'injustice sociale. Je m'attaque à cette injustice contre les albinos, mais aussi contre les jumeaux. Pourquoi ils sont deux? Donc il y a une question de pouvoir. Et alors, si on va voir un sorcier qui va dire « si tu veux devenir maire, président de la République, tu dois sacrifier des jumeaux ou tu dois sacrifier un albinos ». Et beaucoup d'albinos aujourd'hui meurent en Afrique à cause de ces phénomènes que je tente d'expliquer aussi.
Le commerce des allongés, c'est un roman signé Alain Mabankou. Je suis sûre, Benjamin,
Je suis ravi de l'avoir.
Que vous allez apprécier. Il vous sera dédicacé dans une seconde.
Je ferai un petit
peu.
Une dernière question, Mohamed.
Une dernière question. Mille merci, Alain Mabankou, d'avoir réalisé ce documentaire absolument génial, Noir en France, avec cette scène qui a marqué les Français. Un passage où on demandait à des petites filles noires avec quelle poupée elles préféraient jouer, entre une poupée noire et une poupée blanche, et la plupart de ces filles sélectionnaient cette poupée noire. Je voulais mettre cet extrait de votre documentaire en parallèle avec un fait récent que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Disney a choisi récemment une actrice métisse pour interpréter la petite sirène. On a montré sur le plateau de C'est à vous les réactions très émouvantes des petites filles noires en découvrant Ariel.
What is this?
Watch it.
She's what?
Wait.
She's black.
I love her.
Her skin.
What about her skin?
I think she looks like mine. She's brown like me.
What, baby?
She's brown like me.
Yeah, she's brown like you.
Ça a bouleversé les gens sur les réseaux sociaux et sur le compte aussi de C'est à vous. Les gens qui disaient ça va dans le bon sens et d'autres qui disaient on est en 2022.
Oui, mais
ça a clivé.
On est en 2022, cependant la pédagogie n'a pas encore été faite. C'est le sens même de ces documentaires que nous avons fait avec Aurélia Perrault en recherchant vraiment à parler des choses sans une certaine précipitation. Parce que ces enfants qui s'étonnent, c'est parce qu'on leur a donné, on leur a dicté une lecture de notre situation sociale. On leur a appris indirectement, voire inconsciemment, qu'à cause de leur peau, ils ne sont pas à même d'aller au premier étage. Et donc, du coup, qu'ils voient un personnage principal qui a leur peau, c'est des questionnements. Les parents n'ont jamais eu cette discussion sur place. Vous avez vu que dans le documentaire, c'était parce que, justement, les enfants avaient une idée de la couleur blanche qu'ils pensaient que c'était une étape à atteindre. Mais bien entendu, nous sommes dans une période de la remise en cause de plusieurs préjugés. Et moi, j'incite toujours qu'on puisse relire l'histoire de part et d'autre, qu'on ne puisse pas avoir seulement une partie de l'histoire et raconter les choses des Noirs par des Blancs seulement. Quand la chèvre est là, il ne faut jamais bêler à sa place.
Alain Mabankou, Le commerce des allongés, c'est sorti le 19 août dernier. Sinclair, c'est disponible depuis le 9 septembre. L'accord à Hôtel Arena, c'est le 12 décembre 2023.
Oui, on attend.
On a un peu le temps de s'y préparer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté
merci
notre invitation.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Je souhaite juste un excellent anniversaire à l'un de nos plus fidèles téléspectateurs. Il s'appelle Yves Chaumien. Je lui ai promis de le faire. Je le ferai. Et tout de suite, c'est les actualités de Bertrand. C'est pas votre anniversaire ?
Non, mais bon anniversaire, Yves. Bonsoir à la une de ce 21 septembre. Ça va, vous ?
Le président russe a aussi attaqué dans son discours l'Occident. Et il prévient, la Russie utilisera tous les moyens à sa disposition pour se protéger.
Ok, un petit mot. On n'a pas le cul sorti des ronces et 159 malheurs n'arrivant jamais seul après la moutarde, après les pâtes, le fromage, les granolas et les chauffeurs de bus, une nouvelle pénurie nous guette.
Tous les deux mois, il s'approvisionne dans ce supermarché situé à Verdun, à une vingtaine de kilomètres de chez lui.
Vous en avez combien là, Alain ?
30 000.
La pénurie d'allumettes, on ne l'avait pas vu venir, la raison Alain qui les achète à 35 000. Mais en quel but ?
Depuis 7 ans, il construit le village d'Astérix en allumettes.
Excusez-moi, 2 secondes. Oui, alors, ouais, Bertrand Chab... Oui, le zigoto de la 5, ouais. Je m'y prends sûrement trop tard, mais vous seriez dispo parce qu'on est mercredi, j'organise un dîner avec des amis. Super, merci. Tu vois, il a dit oui. La babette, oui, non, j'ai trouvé plus fort que ton collectionneur d'édito de Patrick Cohen. Et respect parce que j'ai essayé de faire des maquettes dans ma jeunesse et c'était une catastrophe. Dans le reste de l'actualité, Benjamin, en mai dernier, vous étiez juré, on en parlait tout à l'heure, au Festival de Cannes. Ce soir, l'ABC lance sa propre cérémonie. Et hey, le festival de rame. Bon, il y a beaucoup moins de suspense que sur la croisette parce qu'on sait déjà qui va remporter le prix. La rame d'or est décernée à la France insoumise. La France insoumise qui s'était déjà illustrée dans le point presse de l'angoisse et je te refile la patate chaude quand on m'interroge sur l'affaire Quatennin. C'est le tweet de Mélenchon. Souvenez-vous, c'était hier.
Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté ?
Non. Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est.
C'est fort de cette expérience. Qui la France insoumise a-t-elle choisi d'envoyer sur BFM pour éteindre l'incendie et expliquer la mise en retrait d'Adrien Quatennens ? Daniel Obono, riche idée.
Mais en fait, ça veut dire ne pas avoir de prise de parole.
Mais ça veut dire qu'il sera dans l'hémicycle quand même.
Ne pas avoir
il pourra siéger dans l'hémicycle. Donc il est à l'Assemblée, il ne pourra pas parler.
Mais il n'est pas... Il n'est
non, mais
pas,
il siégera dans l'hémicycle à vos côtés.
Il n'est pas...
On n'aura pas le droit de prendre la parole.
Non, voilà, c'est on va...
C'est des emplois fictifs, alors.
Donc ce n'est pas... Écoutez, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas un emploi, c'est une fonction. Aujourd'hui...
Oui, mais le peuple ne savait pas qu'il avait giflé sa campagne.
Oui, bien sûr, mais donc les circonstances qui...
International maintenant, direction le Honduras. Oui. Pourquoi ? Parce que le Honduras célébrait le 201e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, les parachutistes de l'armée de l'air avaient préparé un spectacle. Problème, il y avait beaucoup de vent. Résultat, on dirait une allégorie des interventions sauvetage de la France insoumise sur l'affaire Quatennens. Il n'y a pas eu de blessés, je vous rassure quand même. Puis cette info, oui, non, quand même. Cette info média, Jordan Bardella a lancé un jeu sur France Info, oui, parce que le matin, Jordan Bardella se prend pour Jean-Pierre Foucault. Attention, voici la question. Top magnétoscope.
A vendu Alstom aux Américains de General Electric.
Qui a vendu Alstom aux Américains de General Electric ? Alors, je ne sais pas du tout. Je dirais au hasard Emmanuel Macron.
Macron.
Ouais. Ouais. Allez, les magnétos sont trop courts, c'est de ma faute. Ce jeu était nul, je le savais. Page spéciale Jordan avec Bardella, après Bardella Deluxe, Jordan Deluxe, et puis après je vais faire dodo. Benjamin Alain, vous avez choisi, c'est à vous, mais vous auriez pu aller vous faire interviewer par Jordan Deluxe sur C8. Ce matin, il recevait Passepartout de Fort Boyard. Et si vous aimez le showbiz, vous allez adorer cette info.
Patricia, vous êtes rencontrée grâce, eh bien, c'est à Passemuraille, hein, c'est ça ?
C'est ça. Lui, il sort avec la fille, et moi, je suis avec la maman de la fille.
Oh la vache.
Attendez, quoi? Passepartout est en couple avec la mère de la compagne de Passe-Murat. Il y a beaucoup trop d'infos dans cette information. Si vous avez compris qui couche avec qui dans cette histoire, écrivez-nous. Oui, parce que les interviews de Jordan Deluxe, c'est très sympa. Ça ressemble à un rendez-vous avec son conseiller bancaire.
Mais ressemble vachement à Pee-wee Herman. J'ai cru que c'était lui qui
était... C'est vrai?
Ouais, ouais. Quoi?
Pee-wee, mais qui ferait des rendez-vous de conseiller bancaire, parce qu'il ne parle que de thunes.
Ah, d'accord.
Le sujet qui va vous fâcher, André, c'est le sujet très épineux. De l'argent. Alors moi, on m'a dit 2500 euros par tournage. Est-ce que c'est vrai ou
non,
que
c'est faux?
C'est en dessous. Tarif figurant, je crois que c'est 300 euros à l'émission, un truc comme ça. Ça coûte combien d'avoir passe-partout à la maison pour faire une petite soirée? Vous touchez moins de 3000 euros?
Ouais.
D'accord, à peu près, donc dans les 300 euros par émission. Ça doit y aller au niveau de... On en parlera tout à l'heure un petit peu.
Oh bah oui, on en parlera tout à l'heure. Je vois que votre taux de prélèvement à la source s'élève à 8%, monsieur Partout. Heureusement, au bout d'un moment... oui, c'est son nom de famille. Heureusement, au bout d'un moment, Jordan est passé à autre chose.
Bon, l'argent. Alors, on arrête avec ça.
Enfin pouvoir parler de Fort Boyard.
Juste le salaire de quelqu'un qui travaille à la RATP, c'est à peu près 3000 euros par mois, peu près.
Bah non, il est pire qu'un conseiller LCL, ce Jordan Deluxe. Et ceci dit, après réflexion, je me demande si c'est pas mieux quand il interroge ses invités sur les agios, parce que quand il ne parle pas d'argent, il a des idées étranges.
Vous pensez que vous faites à peu près 6 iPhones? Restez super avec nous, on saura combien fait d'iPhone notre cher Dédé, notre passe-partout national.
Non, vous avez bien entendu, il demande à passe-partout combien d'iPhone il mesure. C'est beau la TNT. Et il était tellement fier de la séquence qu'il l'a teasé toute l'émission.
On se fait le petit défi des iPhones du coup?
Bien sûr, avec grand plaisir.
On va voir si André grand fait plaisir plus iPhone qu'Elodie Costa.
Alors je sais que vous trépignez d'impatience de connaître l'équivalence de passe-partout en iPhone, mais un peu de patience, vous le saurez dans un instant. Juste avant, faisons un détour du côté de chez Fabien Roussel.
Je vous présente le copain hérisson trouvé dans le jardin. C'est notre nouvel ami.
Eh ben, il va bien. Et on referme ses activités avec la réponse que la France entière attend. Combien d'iPhone mesure passe-partout? Voici la réponse, car oui, ils l'ont fait.
Alors on y va. André, vous dites que vous faites plus de 6 iPhones, c'est ça?
Plus de 6, oui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, André. Ben, c'est voilà, gagné. Je sais pas ce que vous avez gagné, le droit de revenir.
Tout à fait. Et ben, coucou Elodie, toi, un petit iPhone de plus que toi.
Merci Jordan, à demain. Quelle époque.
Bravo Bertrand Chameroy, merci beaucoup Benjamin Violet, Alain Rabat. Tout de suite, c'est la grande librairie avec Augustin Trapenard qui reçoit Hélène Devinck, l'auteur d'Impunité, c'est aux éditions du Seuil. Et si vous voulez bien vous tourner vers David pour saluer nos téléspectateurs, on était ravis de vous recevoir. Sinclair, le commerce des allongés, voilà l'actualité de nos invités de ce soir. À demain, 19h en direct. Gros bisous, ciao.
Ciao.
Prends-moi tout. La vie, la dignité, ma pointe sur le banc. Les trois sous de côté qui demandent tant d'efforts. Et n'oublie pas d'emporter le canapé tout confort.